Bonjour auditrices et auditeurs de Radio Galère sur 88.4 de la bande FM. Vous pouvez aussi capter Radio Galère et suivre sur le canal 8C de la RNT, Radio Numérique Terrestre en DAB+, ou sur le site http://www.radiogalère.org. Vous êtes à l'écoute de l'émission mensuelle de 13h30 à 15h du dernier jeudi du mois, Les Échos du Grand Saint-Barthélemy, qui a pris le relais des Échos de la Bisserine. C'est une émission qui est toujours émise prioritairement en direct du local du comité Manhiga, association implantée au cœur même du quartier de la Bisserine. Et émission qui se veut aussi être une passerelle entre l'ensemble des quartiers de Marseille, y compris des quartiers sud, au-delà de la parole des habitants, des acteurs sociaux du Grand Saint-Barthélemy. Le thème de ce jour est « Rencontre Nord-Sud à travers une action de solidarité citoyenne, les maraudes in Marseille ». Pour ce faire, autour de la table, nous avons des invités qui vont se présenter. En premier lieu, les représentants de l'association ABCD implantée des quartiers sud. Bonjour Madame Padovani et Cathy.
Bonjour, voilà. Alors moi je suis venue avec mon amie Marie-Lou, dont vous parlez de l'association ABCD. Alors ABCD, c'est l'action de bienfaisance contre le dénuement. Donc on va vous donner des détails sur nos actions, sur nos buts, sur nos quelques difficultés et puis nos espoirs aussi pour que la situation s'arrange au mieux dans nos secteurs du 8e.
Puis nous allons poursuivre les présentations avec l'association Arc-en-Ciel.
Oui, alors voilà, je suis la présidente de l'association Arc-en-Ciel, je m'appelle Jamila. Et nous sommes une association qui travaillons sur le quartier de la Bisserine. Mais pas que. Nous travaillons sur le Grand Saint-Barthélemy. Et on est une association qui travaille aussi avec l'école de la Bisserine. Et voilà, on a été sollicité par le collectif des musulmans pour pouvoir participer aux maraudes. Et on cuisine depuis bientôt 2 ans.
Justement, nous avons un représentant du collectif des musulmans. Bonjour, Yazid.
Oui, bonjour, Yazid. Je m'appelle Yazid. Donc, je suis le porte-parole du collectif des musulmans. Et effectivement, on a sollicité Arc-en-Ciel et l'Agora pour pouvoir nous apporter une aide précieuse concernant les repas. Et puis, je détaillerai un peu plus tard.
Merci à ces acteurs de terrain. Nous avons sollicité aussi notre amie et sociologue Karima Berich. Bonjour, Karima.
Bonjour, Jean-Marc. Donc, très heureuse de participer à cette émission de radio avec vous. Et l'exercice qui m'a été demandé par le comité Manhiga, c'est effectivement de dire qu'il y a eu, depuis la création de ces grands ensembles dans les années 60, d'autres formes de solidarité et qu'elles perdurent. Hein, et mon rôle sera de vous dire 2 ou 3 solidarités marquantes qui continuent à structurer ce quartier.
Alors, pour nous appeler, vous pouvez composer le 09 54 38 87 44. Ou Farid, le Vivre Ensemble aussi, tu peux communiquer le site du Vivre Ensemble.
Le site du vivreensemble.org et vous tombez sur le site du comité Manhiga et vous allez voir un petit peu les actions qu'on mène au sein du Grand Saint-Barthélemy.
Première voilà. Pause musicale, Léo Ferré, Madame la Misère, sachant que nous ne sommes pas là pour faire du misérabilisme, mais plus pour développer une action citoyenne et de solidarité. Galère 488.4.
Madame la misère, écoutez le vacarme que font vos gens, le dos voûté, la langue au pas. Quand ils sont assoiffés, ils se saoulent de larmes. Quand ils ne pleurent pas, ils crèvent sous le charme de la nature et des gravats. Ce sont des enragés au ventre translucide qui vont sans foi ni loi, comme on le dit parfois. Régler son compte à mon seigneur éphéméride qui a pris leur jeunesse et l'a mise en ses rides. Quand il ne leur restait que ça. Madame la misère, écoutez le tumulte qui monte des bas-fonds comme un dernier convoi. Traînant des mots d'amour, avalant des insultes et tenant par la main leurs colères adultes afin de ne les perdre pas. ce sont des enragés qui dérangent l'histoire et qui mettent du sang sur les chiffres parfois. Comme si l'on devait toucher du doigt pour croire qu'un peuple heureux, rôtant tout seul dans sa mangeoire, vaut bien une tête de roi. Madame la misère, écoutez le silence qui entoure le lit des faits des magistrats. Le code de la peur se rime avec potence, il suffit de trouver quelques pendus d'avance. Et mon Dieu, ça ne manque pas.
Émission Les Échos du Grand Saint-Barthélemy, 88.4 d'Abande FM, en modulation de fréquence si vous préférez. Avant la prise de parole par tous nos invités, trois questions qui s'adressent directement à Karima, question à laquelle aussi Yazid peut aussi participer, ainsi que vous autres. Alors, la première question, c'est quel territoire aux identités multiples que recouvre le Grand Saint-Barthélemy ? Que signifie le sigle QPV, puisque nos quartiers sont inscrits dans ce programme, même si dans les faits, cela n'est pas suivi véritablement d'effet dans le concret ? Et enfin, au-delà des articles médiatiques contribuant à stigmatiser un peu plus nos quartiers, même si nous ne minorons pas le fait qu'il existe des drames, drames vécus par nos populations et l'existence d'une économie parallèle dans nos quartiers, néanmoins ne sont pas mis en exergue suffisamment les solidarités anciennes ainsi que les plus récentes, voire les nouvelles. Alors, Karima, peux-tu nous en dire un peu plus, Yazid ainsi que les collègues d'Arc-en-Ciel, s'ils veulent parler un peu de ce quartier, parce que nous nous adressons à nous, mais aussi à un public extérieur.
Alors, concernant la première question sur les identités multiples du Grand Saint-Barthélemy, il me vient comme ça en tête d'abord une identité urbaine, puisqu'il faut se rappeler qu'à l'origine, c'était des vastes campagnes. Et le plus grand bidonville de Marseille, le bidonville de Saint-Barthélemy, c'est une identité dont on est les héritiers aujourd'hui. De ces campagnes, de ce bidonville, ont jailli dans les années 60 jusqu'au milieu des années 70 ces tours et ces bars que nous connaissons tous aujourd'hui et qui sont évidemment aussi une identité urbaine. Une identité urbaine qui a été questionnée et qui est en pleine transformation puisqu'on est sur la phase finale du projet de rénovation urbaine. Donc 40 ans après, il y a un deuxième rendez-vous urbain d'envergure. Donc il y a une nouvelle identité qui effectivement permettra à ce territoire de s'inscrire dans la ville avec effectivement des routes et des rues qui appartiennent à des collectivités qui seront éclairées comme dans n'importe quel quartier avec une signalétique, etc. Donc on rentre en fait dans la norme. Nous étions un peu une excroissance. Aujourd'hui, nous devenons un des quartiers qui rentre dans une norme classique d'un quartier de Marseille. Ça, c'est une identité urbaine extrêmement importante. Les autres identités, elles sont liées aux différents peuplements qu'a connu ce territoire, évidemment. Et là, on voit des Européens. Alors, je dis les Européens. D'abord, les premiers qui ont été logés ici, c'est les mal-logés marseillais, puisque la question du logement dans cette ville est une question récurrente. Donc, les grands ensembles ont permis aux Marseillais, dans les années 60, d'avoir un appartement avec des fonctions extrêmement agréables. Et puis, européenne, parce que nous avons aussi des communautés italiennes, des communautés arméniennes, des rapatriés d'Afrique du Nord, il ne faut pas les oublier, évidemment. Et puis, dans les années 80, nous avons un changement de population. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais qui fait qu'après, ce parc immobilier va s'ouvrir largement aux communautés maghrébines et par la suite comoriennes. Mais ça reste un territoire qui, en termes d'identité, de peuplement, d'habitants, continue à accueillir des nouvelles populations. Et en cela, c'est extrêmement intéressant.
Désirez-vous ajouter autre chose ? Non ? Yazid ?
Non, si ce n'est que je suis effectivement... Je fais partie du détail parce que je suis arrivé d'Algérie dans les années 80. Donc je vais rentrer dans le détail de ma vie. Non, concrètement, tu as bien résumé un peu la particularité, la singularité de ce secteur. Moi, je suis là, je suis arrivé dans les années 80. Et effectivement, on a vu une mutation au niveau des populations, mais... Le leitmotiv de ce quartier, c'est le tissu associatif et la solidarité qu'il y a. Donc oui, il y a des mutations, les gens arrivent, il y a un brassage. Des gens s'émancipent de ces quartiers, c'est très bien, parce qu'à un moment donné, il y a une évolution de vie qui fait que je prends ma propre personne. J'ai grandi, j'ai fait des études, et puis j'ai été voir ailleurs si l'herbe était plus verte. Et je reviens avec plaisir, parce qu'effectivement, il y a un lien invisible qui est palpable, et qui mérite quand même, qui n'existe pas dans d'autres secteurs, et qui mérite d'être, allez, on va dire, pour prendre pour paraffer on parlait tout à l'heure d'agriculture, il y a toujours des gens qui viennent et qui arrosent. Il y a des fleurs qui émergent, et il y a des fruits, des bons fruits qui émergent, et de là est née une solidarité, alors que, concrètement, pour répondre à ta deuxième question, sur les mutations, sur le fait qu'on soit taxé de quartier QPV, moi, ce que j'ai vu, par contre, c'est que le service public était de plus en plus défaillant et que les gens, les associations, les centres sociaux étaient livrés de plus en plus à eux-mêmes. Et malheureusement, à ce niveau-là, on a vu quand même une chute, une dégradation. Des gens qui, dans les années 80, trouvaient plus facilement des dispensaires, des médecins, qui trouvaient plus facilement des éducateurs, qui trouvaient plus facilement des services associatifs, des sorties, à ce jour, nous sommes en 2020, nous sommes dans le cinquième pays le plus riche au monde et vous avez des gens qui sont livrés à eux-mêmes, voire pire, des gens qui font 3 heures ou 4 heures de queue pour juste avoir une simple consultation.
Oui. Que signifie QPV pour les non-initiés ? Parce que...
Alors, je passe la main.
Je vais y répondre, sachant qu'on allait m'interroger sur cette question, donc j'ai quand même un peu regardé ce qu'il en disait, donc je vais faire évidemment court. QPV, en fait, c'est les initiales de quartier prioritaire de la politique de la ville. Voilà, donc on a pris Q pour quartier, P pour prioritaire et V pour ville. En fait, c'est la loi de programmation, parce qu'il faut le savoir, pour la ville et la cohésion sociale urbaine promulguée le 21 février 2014. Donc actuellement, il y a un contrat de ville qui court jusqu'en 2020, donc qui a démarré en 2014 et qui court jusqu'en 2020. Un seul critère est retenu dorénavant, antérieurement pour les autres dispositifs connus depuis que la politique de la ville existe. Il y avait plusieurs critères, notamment le taux de chômage, le taux d'étrangers, le faible niveau scolaire, etc. Aujourd'hui, un seul critère est retenu, c'est celui du revenu. Et en fait, ils ont fusionné deux dispositifs, qui était le premier dispositif, qui était les zones urbaines sociales que nous connaissons, et les contrats urbains de cohésion sociale, c'est devenu aujourd'hui les QPV. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, en métropole, on compte 1296 quartiers de plus de 1000 habitants. Mais, autre élément, il faut qu'ils soient situés dans des agglomérations métropolitaines de plus de 10 000 habitants. Juste pour dire qu'effectivement, aujourd'hui, les quartiers, il faut qu'ils soient dans des métropoles, dans des agglomérations métropolitaines de plus de 10 000 habitants. Il faut que le quartier totalise au moins 1000 habitants, avec évidemment le revenu extrêmement bas. La plupart de nos quartiers aujourd'hui, notamment le Grand Saint-Barthélemy, y répond. Alors pas l'ensemble, et on est bien contrarié parce qu'aujourd'hui la Benosse est sortie du dispositif QPV, alors fait. Que les habitants connaissent les mêmes difficultés de vie.
Oui.
En sachant Karima, faut pas oublier que c'est à l'initiative de ce territoire que le ministère de la politique de la ville a été créé. On peut dire ça aussi. Plus ou moins.
Juste, je voulais dire une deuxième chose. En fait, derrière l'idée de cette loi, c'était d'avoir une efficience en termes de démarche et de financement. Mais en fait, on s'est rendu compte que derrière cette idée technique intéressante, enfin, qu'on peut questionner de toute façon, c'est qu'aujourd'hui, on a des pertes de subventions, comme l'a dit notre ami Yazid, que des territoires sortent aujourd'hui de la politique de la ville. Et en fait, nous avons l'inverse de ce qui nous a été annoncé. C'est ça la vraie réalité. Après, la politique de la ville, elle est née au lendemain des émeutes des Minguettes à Lyon. Mmh. Avec le premier... il y avait l'habitat vie sociale et HVS. En fait, la politique de la ville, pour moi, elle a démarré avec le développement social des quartiers dans les années 80.
Voilà, nous allons poursuivre avec le questionnement qui nous importe. C'est celle aussi des solidarités anciennes et les nouvelles. Peut-être que il y a certes Karima qui peut en parler, mais aussi les autres invités de l'association Arc-en-Ciel. Alors Karima, peux-tu peut-être évoquer les anciennes solidarités qui existaient dans nos quartiers, qui sont tellement stigmatisées, et qu'à un moment donné, il faut que nous puissions arriver à mettre en exergue ces solidarités qui existent et cette vie de quartier qui existe réellement.
Donc là, j'ai pris trois exemples. Évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive. Et je les ai effectivement pris, ces trois exemples, sur le livre qui a été édité par le comité Mamega, qui s'appelle « Monsieur Thiers, un marchand de biens », qui a été édité en 2003. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les formes de solidarité, en tout cas pour moi, les plus importantes, elles sont dès le départ, quand ces tours et ces bars ont été créés. Et c'est-à-dire qu'il y a une mobilisation solidaire des habitants et des acteurs associatifs. Et à l'époque, d'élus communistes, pour se battre pour un meilleur cadre de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on a des équipements socioculturels, sportifs et un petit poumon vert, il faut le rappeler, au moment où bientôt il va y avoir la journée pour le climat, nous avons un joli poumon vert qui s'appelle Fontobscur. Et c'est grâce à la mobilisation des habitants si aujourd'hui, dans ce quartier, il y a des équipements à la hauteur, bon, bien sûr, on pourrait avoir plus, mais qui sont quand même à la hauteur de la demande de la population. Ça, c'est important. Donc, ces solidarités, elles sont l'histoire même du quartier. Je disais à Jean-Marc, avant la préparation de cette émission, moi, je m'intéresse toujours au parcours de vie de gens. Et les gens qui étaient à l'origine de cette mobilisation, c'est des gens qui ont été résistants durant la Seconde Guerre mondiale. Donc, évidemment, il n'y a pas de hasard. Les gens portent une histoire qui fait que par la suite, ils vont l'investir dans leur lieu de vie. La deuxième histoire, mais parce qu'elle me plaît beaucoup, celle-là, c'est que le premier lieu de culte qui a été créé dans ce territoire, c'est l'église de Sainte-Claire.
La chapelle.
Parce que, voilà, on a parlé tout à l'heure de la transformation des populations, des changements de population, mais à l'origine, c'est une population européenne majoritairement catholique et pour une bonne partie d'entre elles, pratiquante. Donc l'église Sainte-Claire était un lieu tout à fait approprié. Et puis ces populations partant, l'église étant moins fréquentée, il s'avère que dans les années 80, il y a une nouvelle communauté qui arrive, qui est la communauté comorienne, et qui va rencontrer le père de l'église en disant... Nous voulons un lieu pour pouvoir effectivement prier selon nos rites. Et là, c'est extraordinaire ce qui va se passer en termes de solidarité. Et c'est important de le dire aujourd'hui, où on stigmatise énormément cette communauté, où on met dos à dos les gens, les populations, etc. C'est que l'Église va mettre à disposition la communauté comorienne une grande partie de ses locaux durant 2 ans. Et ça, c'est extrêmement important. Et l'histoire renvoie toujours, quand tu parlais de semer des fleurs, des fruits, enfin on semble quelque chose qui devient quelque chose d'intéressant. Quelques dizaines d'années plus tard, il y a un projet qui arrive sur ce territoire d'une halte garderie. Et le tracé initial prévoyait de détruire l'église de Sainte-Claire. Et là, les associations culturelles musulmanes, qu'elles s'adressent à la communauté maghrébine ou comorienne, hein, aujourd'hui les deux, se sont élevés en disant qu'il n'en est pas question. Elles font partie de notre patrimoine et nous n'oublions pas le geste qui nous a été fait. Ça, c'est extrêmement important. Et après, je reviendrai sur d'autres formes de solidarité.
Ce que je peux ajouter par rapport à la chapelle Sainte-Claire, la caractéristique aussi du quartier, c'est que c'était des prêtres ouvriers essentiellement. Et les prêtres ouvriers, c'est extrêmement important à travers aussi non seulement leur expérience professionnelle d'une part, mais d'autre part leur implication dans les quartiers. Pour cela, nous pouvons évoquer aussi le rôle joué par Jacques Marty, hein, en tant que prêtre ouvrier, mais Yazid aussi pourra rebondir et en parler. Je te laisse la parole.
Non, mais très rapidement, pour étayer le propos de Karima, lorsqu'on a pris la décision, parce que les locaux étaient un peu étroits, et bon, je suis un peu ému par rapport à ce que tu dis, parce que c'était pas 2 ans, c'était pendant 6 ans. Donc pendant 6 ans, ils nous ont ouvert leurs portes et on faisait la prière du vendredi et les cours d'arabe là-bas. Tu me parlais de Jacques Marty, on a eu, lorsqu'on a porté le projet de la grande mosquée de Saint-Barthélemy, on a eu une levée de bouclier, malheureusement, d'une certaine élue, dont je ne citerai pas pour ne pas faire sa publicité.
Je suis d'accord.
D'une élue qui ne voulait pas, alors que c'était inscrit dans le cadre du projet de l'ANRU. Et les gens, les associations qui nous ont aidés, ben c'était toutes les forces vives qui existent, dont le Mamega, dont l'Agora. Et il y avait aussi Jacques Marty qui est venu juste avant le prêche du vendredi. Il a fait une ouverture, donc on a un peu chamboulé le rite habituel du prêche. Donc il y a eu la Ligue des droits de l'homme, Jacques Marty et toute une série d'associations qui ont débloqué. Et moi, je le dis en tant que porte-parole de la mosquée, qui ont permis de débloquer, de sensibiliser les gens et de faire en sorte que les gens aient un lieu de culte digne de ce nom.
Remontons un peu aussi le cours de l'histoire, en rappelant que la chapelle de Sainte-Claire aussi, avec les prêtres ouvriers de l'époque, lorsqu'il y a eu le bidonville à l'époque, où il y a eu le feu, les prêtres ouvriers qui étaient là ont mis à la disposition tout un vaste mouvement de solidarité envers les populations des bidonvilles de l'époque. Donc ce sont des moments et c'est un symbole, selon moi, ce lieu, effectivement, qu'il ne faudrait pas qu'il puisse disparaître, mais bien au contraire, qu'il soit toujours vivace et être symbolique, effectivement, de ces gestes de solidarité qui peuvent s'exprimer à travers de tels actes et de tels hommes. Alors, Karima, tu n'avais pas terminé ?
Non, je n'avais pas terminé. Je voulais parler d'une troisième forme de solidarité que j'observe et qui fait partie du quotidien des gens. Et c'est important parce que les solidarités, elles s'inscrivent aussi dans un quotidien. C'est celui quand il y a des deuils, parce que ce que nous observons dans ce territoire, c'est un enracinement et un vieillissement de population, notamment de populations d'origine étrangère qui n'avaient pas prévu de vieillir ici. Parce que rappelez-vous, le corollaire du projet migratoire pour beaucoup de travailleurs immigrés, notamment maghrébins, c'est le retour au pays. Mais la réalité aujourd'hui, c'est qu'ils ne retournent pas et pour la plupart décèdent dans ce pays. Donc ce qui est intéressant, c'est que ce soit des acteurs associatifs ou des habitants, ils mettent à disposition leurs locaux et les appartements pour qu'effectivement, parce que c'est un village en fait, on puisse venir présenter les condoléances aux familles. Et ça, c'est extrêmement important. Et puis une collecte d'argent, parce que souvent, aujourd'hui, une partie de ces familles souhaitent rapatrier le corps dans leur pays d'origine. Et ça, c'est un vrai coût financier. Nous sommes quand même dans un quartier où les familles ont des revenus extrêmement modestes. Et donc, c'est grâce, effectivement, à cette solidarité de collecte d'argent, etc., pour qu'effectivement, le vœu dernier de ces Chibaniers et Chibaniyas, comme nous les appelons avec tendresse ici, c'est de retourner définitivement dans leur pays d'origine.
Alors, désirez-vous compléter un peu les... Voilà.
Oui, alors nous, je ne pourrais pas vous parler des années 80 parce que j'y suis à peine née. Mais voilà, moi je suis arrivée dans le quartier en 2005. Mes enfants sont rentrés à l'école en 2009. Voilà, j'ai découvert la solidarité de la Busserine à ce moment-là. On a eu un gros souci sur l'école et nous avons créé des liens avec le corps enseignant et les parents. Et à ce moment-là, on s'est battus tous ensemble, main dans la main. Et on a mené un combat pas possible, et avec les acteurs associatifs du quartier, le centre social, Mamégal, le collectif des musulmans. On a été nombreux, et à ce moment-là, j'ai compris qu'est-ce qui était la solidarité de la Busserine. Et j'ai essayé d'y prendre part, et je suis encore là aujourd'hui. Et ouais, c'est ça. On se donne corps et âme, limite. Hein. Parce qu'une fois qu'on y est, on dit oui à tout.
Merci pour ce témoignage qui permet aussi de donner notre image de nos quartiers. Avant notre première pause musicale, je souhaiterais que vous puissiez aussi réagir par une phrase, à un moment donné, une assertion qui a été exprimée, me semble-t-il, par les compagnons de l'abbé Pierre. Et je souhaiterais savoir ce que vous en pensez, à savoir que la misère a chassé la pauvreté. Sachant que l'Union européenne décidera en 2021, c'est-à-dire l'année prochaine, du sort de l'aide alimentaire européenne dont dépendent certaines associations telles que le Secours populaire et autres. Donc alors, que pensez-vous de cela? Je souhaiterais que vous puissiez réagir. Est-ce que pauvreté, misère, et quel est le degré aussi de désescalade, pourrions-nous dire aussi, à laquelle nous assistons?
Nous, on peut dire qu'on est un peu en lien quand même avec la communauté d'Emmaüs, parce que bon, certaines de nos adhérentes ont travaillé à Emmaüs, justement. Donc, on peut les solliciter de temps en temps, et ils sont assez ouverts. Bon, ils restent toujours dans la solidarité de tous les quartiers. Hein. Donc, on a régulièrement quand même des dons. C'est des dons évidemment en nature, c'est de l'ordre de couverture, de sacs de couchage, etc. Pas de dons alimentaires, parce que ça, c'est notre propre association donc, qui le prend en charge. Mais bon, on peut dire qu'il y a quand même une certaine collaboration, hein, même donc dans ces quartiers du 8e, hein, puisqu'on travaille avec Emmaüs de la Pointe-Rouge. Donc, hein.
Voilà. Oui, Yazid, as-tu terminé ? Nous, parce que nous détaillerons un peu tout cela juste après la pause musicale, mais si Yazid désire réagir.
Bah, très rapidement, effectivement, on est en plein dedans, en fait. Il y avait des communautés dans les années 80 qui étaient certes pauvres, mais peu miséreuses. Là, il y a une nouvelle vague de personnes qui sont dans le dénouement total, qui squattent, et là, on peut parler de misère, qui n'ont pas de couverture sanitaire, qui n'ont pas de couverture sociale, qui sont hors champ de tous les référentiels qui existent. Et là, effectivement, on se rend compte, au travers des actions que nous menons, et on pourra le détailler plus tard, mais on se rend compte qu'effectivement, on est dans la misère ultime. Il y a un squat à Saint-Just, où vous avez des mamans qui sont enceintes, avec des enfants en bas âge, et qui sont livrées à elles-mêmes avec toute la précarité énergétique, économique, sociale. Il y a des punaises de lit, il y a des problèmes d'hygiène. Là, quand je regarde ces secteurs-là, quand je regarde Corot, ce qui est devenu Corot, qui à l'époque était pauvre, quand je regarde Les Rosiers, qui à l'époque était pauvre, et quand je regarde maintenant ce qui est devenu, je me dis que la pauvreté, elle est plutôt du côté du Grand Saint-Barthélemy, dans des secteurs où, effectivement, on est plus ou moins mieux lotis. Mais quand je les regarde, eux, les gens qui viennent d'arriver, je me dis qu'effectivement, ils ont fui une situation de misère pour se retrouver dans une situation où, dans laquelle ils sont totalement déracinés. Et ils sont dans une paupérisation extrême.
Eh bien, merci. Alors, un peu de cœur à l'ouvrage. Nous allons faire une pause musicale avec Soprano, notamment. Il est de chez nous un peu, de nos quartiers aussi. Et pour un morceau qui s'intitule « Cœur donné, n'est-ce pas si dit ?» Merci.
Thank you. Je te vois, monsieur le cœur donnier. Oui, je te vois dans ton atelier. Tu répares avec l'innocence d'un enfant. Tu recouds avec le sourire d'un passant. Tu recolles avec la douceur d'une maman. Tu tisses avec du jaune, noir et du blanc. Mais quand je regarde ce monde de fou, je me dis que le cœur donnier, c'est nous.
Toujours en direct, les échos du Grand Saint-Barthélemy au sein du comité Mamega. Merci Jean-Marc de co-animer l'émission de radio avec moi. C'est un plaisir et on va continuer ensemble. Et voilà, je suis vraiment ému d'être là avec toi aujourd'hui et c'est un grand plaisir.
Merci Fabrice, ouais. Tu es un grand sensible.
Pour continuer dans le cadre de thème des maraudes, vous êtes toujours dans l'écoute de Radio Galère, réanimé par le comité Mamega et Radio Galère, réalisé et produit par le comité Mamega et Radio Galère. On va parler toujours dans le cadre de la thématique des maraudes. Les échos du Grand Saint-Barthélemy, c'est nouveau, c'est depuis cette année-là, il faut le préciser, depuis 2020. Avant, ça s'appelait les écoles du camp de la Bussorine. C'est bien de le préciser. Je vais vous parler un petit peu de Radio Galère et en même temps du numéro de téléphone. Éventuellement, vous pouvez nous contacter au 09 54 38 87 44. Comme vous le savez, nous avons excusez-moi, j'ai pas mes lunettes. L'émotion. Passe pas mes lunettes. Ouais, j'ai pas les lunettes, désolé.
T'as l'émotion et tout, bon.
Ah, super. Voilà, comme vous le savez, tous les derniers jeudis du mois, de 13h à 15h30, sur les ondes de Radio Galère, nous appelez, voilà, je vous ai dit le numéro de téléphone. Comme vous le savez, nous savons recevoir dans nos quartiers, ainsi de donner la parole aux représentants et aux représentants de l'association ABCD, implantée dans les quartiers sud. Voilà. Une question pour l'association ABCD. Que signifie l'alphabet ABCD?
Alors, il s'agit de l'action de bienfaisance contre le dénuement. Alors, je suis donc venue ici pour vous parler de cette association. Cette association, d'abord son siège, c'est bien dans le 8e. Il est situé 16 boulevard Michelet, c'est-à-dire juste en face du Vélodrome, en face du stade. Et c'est une association très récente, elle n'a même pas 2 ans. Elle a été créée en mai 2018. Donc voilà, cette association, elle a été créée afin de venir en aide aux sans-domicile, aux SDF et aux personnes les plus démunies. Donc nous sommes 14 bénévoles en tout, nous nous relayons 2 fois par semaine, le mardi soir de 19h30 à 21h30 à peu près, ainsi que le jeudi soir, toujours aux mêmes horaires. Nous distribuons de la nourriture, mais pas seulement. On distribue des vêtements et des produits d'hygiène de première nécessité. Quand je dis produits d'hygiène de première nécessité, c'est vraiment ça, hein. Il s'agit de shampoing, de gel douche, de rasoir, de dentifrice, de brosse à dents. Enfin, on essaie de satisfaire à la demande, hein, parce qu'ils sont dans une demande extrême. Alors, on pouvait penser à tort au départ que dans le 8e, il n'y avait pas tellement de gens démunis. En fait, il y en a énormément. Il faut savoir qu'on distribue, on est une des rares associations, enfin du moins dans ces quartiers, à distribuer des repas chauds. Et il y a une très forte demande, hein. On distribue entre 45 et 60 repas chauds chaque soirée. Donc, c'est absolument énorme.
Comment est subventionné ce...
On n'a aucune subvention. Ouais, aucune.
Comment ça se passe alors?
Ben, on fonctionne uniquement avec les dons des adhérents. Hein. On a quelques sponsors, on va dire, que sont les commerces du quartier. Alors, on a la chance d'avoir Auchan Gourmand, le nouvel Auchan à côté du stade Vélodrome. Alors, eux, les mardis et les jeudis, donc 2 fois par semaine, ils nous donnent... tout leur stock d'invendus, mais du jour. Alors, c'est extrêmement varié, hein, parce que, c'est de très bonne qualité, d'abord. Alors, on a des sandwichs, essentiellement, des pizzas, des quiches, des viennoiseries et du pain. Beaucoup de pain. Alors, donc, eux nous aident énormément. On a aussi quelques dons, c'est moins régulier, de Carrefour. Pour ce qui est des vêtements, on est aussi aidé un petit peu par Decathlon, quand même. De temps en temps, bah, ils nous donnent des jogging, ils nous donnent des sacs de couchage. Oui, bah, c'est un démarchage, en fait. Hein.
Ben,
il faut dire que notre responsable, Madame Savonito Corinne, est très active. Elle connaît beaucoup de monde parce qu'avant, elle avait une entreprise immobilière, hein, on va dire. Donc, elle connaît énormément de gens dans le 8e et ailleurs. Et elle y va carrément. Hein, elle y va, elle demande. Hein. Donc, on ne peut pas dire...
Je suis allée.
Oui. Et ça n'a pas donné d'effet.
C'est peut-être pas les mêmes personnes.
Et ça n'a pas vraiment donné d'effet.
On a Carrefour juste en face.
Oui.
Et j'ai été les voir 2 années de suite pour qu'on puisse nous donner des fournitures scolaires.
Oui.
Les enfants qui n'avaient rien.
D'accord.
Et ben on nous a rien donné.
On vous a rien donné. Alors, on a peut-être beaucoup de chance à ce niveau-là, parce que en plus, on a cet avantage énorme, c'est qu'on part de la brasserie qui est devant le stade. Bon, ça s'appelle la brasserie du stade. Alors là, ce sont de vieux amis à elle, qu'elle connaît depuis 20 ans, et ce sont eux qui, une fois par semaine, font la cuisine, c'est-à-dire qu'ils préparent le repas chaud du jeudi soir. C'est absolument énorme. On a 2 immenses cocottes. Et on arrive donc à donner à manger à plus de 50 personnes. Et c'est chaud. Et ça, les sans domicile fixe, enfin les gens de la rue, apprécient énormément. Parce que, bon, il y a d'autres associations, telles le Secours catholique, par exemple, hein, qui passent. Mais ils ne donnent pas de repas chaud. Ils donnent des sandwichs, ils donnent du pain, ils distribuent de l'eau. Nous, on distribue, bon, outre le repas chaud, on distribue aussi du café, on distribue des desserts, des gâteaux. Alors, on a des adhérentes aussi qui nous fournissent, ben, qui font des gâteaux qu'on distribue le soir même. Donc là aussi, bon, il y a des garanties de fraîcheur, de traçabilité aussi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on ne peut pas recueillir des dons directement dans la rue. Parce qu'on ne connaît pas la traçabilité. Et donc, on a une responsabilité vis-à-vis des gens à qui l'on donne à manger. Donc, on ne peut distribuer que ce que nous récoltons. Voilà.
Pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent, ABCD, tu peux le reformuler, s'il te plaît.
Alors, ABCD, action de bienfaisance contre le dénuement.
D'accord.
Donc, okay. Qui fonctionne depuis 2018.
En tout cas, merci Cathy.
Depuis bientôt deux ans.
En tout cas, on va passer la parole à tout d'abord Arc-en-Ciel, dont l'originalité réside déjà dans l'orthographe et la désignation de l'association. Pourquoi ?
ART.
ART, oui.
Et non Arc-en-Ciel, tel qu'on pourrait le définir et l'écrire.
On a choisi Arc-en-Ciel pour donner un peu plus de couleur au quartier.
D'accord,
oui.
ART, parce qu'on a beaucoup d'artistes dans le quartier. Voilà, et on a voulu faire un petit jeu de mots.
Ah oui,
eh ben, c'est
fait.
Très bien.
C'est bien.
Voilà.
Et Arc-en-Ciel, voilà, qui alors, vous êtes déjà voilà.
On est une association qui a été créée en juin 2018. Elle est toute nouvelle
également.
Aussi.
Ah oui.
C'est ça. Et en fait, nous, on a créé cette association-là pour pouvoir travailler principalement en lien entre l'école et le quartier.
Oui.
Dans un premier temps. Ensuite, voilà, sur nos actions à nous. On travaille beaucoup avec les familles. On essaye de faire sortir les familles, de les aider dans des démarches administratives. Là, on a eu des familles qui étaient sans papier et qui avaient besoin de tout. Parce qu'ils n'avaient rien aussi, qu'ils étaient dans un squat dans lequel on les avait mis à la rue. Du coup, on les a accompagnés, on a essayé de leur donner le soutien dont ils avaient besoin.
Est-ce que vous êtes véhiculés ?
Nos véhicules personnels.
Ah ouais,
nous n'avons pas de subvention.
D'accord, bah nous aussi c'est pareil.
Alors,
hein,
nous on n'en a pas, après nous c'est volontaire. Alors ouais. Déjà dans un premier temps c'est très compliqué de faire un dossier de subvention. C'est pas donné à tout le monde.
Ouais.
Et on préfère rester pour le moment indépendant. Ne pas rendre des comptes aux autorités. Après si demain on grossit et qu'on a besoin de plus d'argent, pourquoi pas.
On verra les choses.
C'est ça. Voilà. Mais nous, on travaille beaucoup sur les dons.
Donc, fonctionner avec les dons.
Voilà.
Avec les dons des familles.
Des dons et des adhésions.
Des adhésions aussi.
C'est ça.
Voilà.
Tout à fait.
Oui, vous voulez ajouter, Farida ?
Voilà, je fais partie de l'association.
Oui, c'est beau.
Je fais partie de l'association Arc-en-Ciel, ça fait 2 ans. Et membre du bureau aussi. Et je suis adhérente à l'Agora, conseil d'administration. Je fais tout pour le Grand Saint-Barthélemy. Je m'occupe avec mes enfants et on fait beaucoup de sorties. On aide les gens, comme elle vient de le dire, Jamila. Et j'espère qu'on fait les choses selon pour satisfaire tous les gens qui viennent nous voir. Que je vais dire, je participe à la maraude tous les lundis avec un grand plaisir. On cuisine et on est content de faire ce qu'on fait. Je ne sais pas ce que je vais dire encore.
C'est déjà bien.
La fréquence de...
Mais nous allons parler tout à l'heure. Nous allons laisser la parole à Yazid, autant que faire se peut, au collectif des musulmans. Alors, Yazid, depuis quand existe le collectif? Il me semble que c'est le collectif des musulmans qui est à l'origine de cette initiative des maraudes, d'une part, et d'autre part, peut-être, en quoi consistent les maraudes? Parce qu'on entend maraude, mais qu'est-ce que c'est?
Alors, je souriais tout à l'heure lorsque vous présentiez vos actions, parce qu'effectivement, on fait la même chose, mais je souris parce qu'en fait, c'est des réseaux. Et effectivement, on a d'autres réseaux qui ont le mérite d'exister. Je les remercie, tous les commerçants, toutes les bonnes volontés, tous les gens qui nous aident. Mais effectivement, on se rend compte que... Mais bon, ça m'a fait sourire. Juste... C'est la partie un peu humoristique parce que dans la pauvreté, dans la misère, il y a beaucoup d'humour et c'est ce qui sauve les gens. Lorsque nous avions commencé, et je vais faire un petit rappel historique, c'était à l'initiative de deux collègues d'enfance. Ils ne veulent pas que je les cite parce que, vous savez, on a dans l'éthique, alors je ne vais pas faire le religieux parce que je n'ai pas les compétences, mais bon, dans l'éthique religieuse, on a une phrase, je vais la dire en arabe pour ceux qui comprennent l'arabe et je la traduirai en français, c'est un proverbe. Fais du bien et oublie-le. Donc les gens qui ont été à l'initiative et qui sont toujours dans ce projet-là, dans ce dispositif-là, ne souhaitent pas qu'on communique leur nom, mais ils se reconnaîtront et puis tout le mérite en vient à eux exactement. Ça a commencé il y a à peu près 8 ans. Deux personnes ont voulu effectivement donner du sens à leur vie et se sont tournées spontanément vers ce qu'ils pouvaient faire. Donc ils ont, dès le départ, sollicité les uns et les autres. Certains ont contribué avec 10 euros, 20 euros. On va voir un boulanger qui nous refile du pain. On va voir un épicier qui nous donne un peu. Donc ça a été un peu folklorique. Vous parliez tout à l'heure de restaurateurs. Nous, au départ, c'était la marmite. Dans le collectif des musulmans, on avait une grosse marmite avec un ami qui est cuistot dans un collège qui venait. On faisait un peu les choses à l'arrache. Quand vous parliez de traçabilité, au secours, on n'était pas du tout dans ça. On essayait tant que faire se peut de faire quelque chose qui puisse être comestible à la base, comestible et pas autre chose. Et on s'est rendu compte quand même en face de nous, nous avions des gens qui venaient de différents pays. Certains ne mangeaient pas le riz ou le couscous qu'on donnait. Ils voulaient du riz et du riz bien spécifique. Donc on a essayé d'adapter en fonction des gens qu'on avait en face de nous. Et là, on s'est confronté à une difficulté. C'est qu'on ne sait pas cuisiner. Donc au bout d'un moment, les pizzas, les repas froids, ça va. Mais il fallait quand même quelque chose de chaud et surtout dans la période hivernale. Et donc, on n'a pas eu de problème d'argent. Je vous assure, le problème qu'on a, nous, au niveau des maraudes, c'était de trouver des gens qui puissent nous aider à cuisiner. L'argent, on arrive, parce qu'on est une centaine de personnes, on arrive à mettre 5 euros, 10 euros, et on arrive à trouver. Et je vais peut-être vous étonner. Des fois, on nous appelle pour nous dire « J'ai 100 baguettes de pain, qu'est-ce que je fais ?» On est un peu mal à l'aise. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui viennent, à partir du moment où vous faites un travail sincère et vous êtes reconnu pour ce travail, les gens viennent, vous donnent les invendus, vous donnent de l'argent parce qu'ils vous reconnaissent. C'est le contrat de confiance un peu. On est le darty de certains et il ne faut pas le rompre. Mais c'est vrai que je plaisantais parce que quand je vois le cheminement que nous avions eu au départ, que nous étions en train de cuisiner, et là je fais une petite dédicace à nos seniors, à nos chibanis qui nous regardaient de travers. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de cuisiner. On avait le camion, donc c'était très folklore, mais je vous assure, c'est des images. Et aujourd'hui, nous avons, au bout d'un moment, on s'est confronté quand même à une réalité. Nous donnons, je peux détailler Tu me parlais tout à l'heure de la maraude. La maraude, c'est d'aller au contact des nécessiteux et des pauvres. Nous étions installés depuis 8 ans à la gare Saint-Charles. Alors, nous avions fait au départ une maraude roulante. C'était compliqué pour nous. Pourquoi? Parce qu'on ne retrouvait pas les mêmes personnes aux mêmes endroits. Donc, on s'est établi au pied de la gare Saint-Charles comme toutes les maraudes, tous les jours. vous avez des maraudes, des associations différentes qui viennent du lundi au dimanche et qui donnent des repas. Alors, au départ, c'était 150 repas. Au plus haut, nous avions 350 repas. En moyenne, nous sommes à 300-350 repas. Mais nous donnons des repas, nous donnons des habits et surtout, nous parlons avec les gens que nous avons en face. Alors, c'est pour ça que nous avons, au bout d'un moment, élargi un peu le champ des associations avec lesquelles on souhaitait travailler. Nous ne sommes pas des éducateurs, nous ne sommes pas des psychologues, nous sommes des gens qui veulent bien faire, avec une éthique, de bonne volonté. Donc nous avons sollicité immédiatement le centre social, l'Agora, pour leur demander s'ils pouvaient nous apporter une aide logistique. Je salue la direction de l'époque, qui nous a ouvert les bras, mais en nous disant « vous êtes les bienvenus et vous faites ce que vous voulez ici ». On nous a donné cette aide logistique et immédiatement, l'association Arc-en-Ciel qui est en face de moi nous a dit « écoutez, on contribue ». Et le collectif jeune aussi, puisque nous avons au plus fort une quinzaine, une vingtaine de personnes qui viennent nous solliciter. Et je m'excuse auprès des gens que j'oublie, mais il y a d'autres personnes qui viennent à titre personnel et non à titre associatif. Ce que je veux dire, c'est que le collectif a émis l'étincelle, l'initiative. Et puis après, le mouvement, vous savez, c'est comme pour une gestuelle. C'est tout le corps qui se met en mouvement. Mmh. Et le corps, c'est les associations qui sont dans le Grand Saint-Barthélemy. Et honnêtement, si du jour au lendemain, on est amené à lâcher, parce qu'on s'est posé la question, parce que physiquement, c'est difficile.
Et moralement aussi.
Et moralement aussi. Mais franchement, j'ai pas peur parce que je sais qu'il y a le relais et qu'il y a des gens qui comprennent ce qu'on a fait. On le fera pas parce qu'il y a toujours des gens qui nous donnent des petits coups de pied aux fesses en nous disant « il faut y aller, il faut y aller ». Mais c'est vrai qu'on s'est posé la question au titre du projet de la Grande Mosquée, parce qu'on a quand même un projet à plus de 2 millions d'euros. Il faut trouver de l'argent et c'est pas évident de dilapider les efforts et les bénévoles. On continue quand même parce que pour nous, c'est un besoin. Actuellement, on a eu des petits soucis de sécurité. On a déplacé la maraude. Parce que malheureusement, il y a une mutation aussi au niveau de la pauvreté et de la misère, donc auquel on ne veut pas mettre en danger les jeunes du collectif qui nous accompagnent, les personnes qui nous accompagnent. Donc on a déplacé, on va aux côtés du foyer de la Madragueville, donc le foyer de...
Oui.
Voilà. Donc on a diminué un tout petit peu le quota, c'est 150 repas, aux alentours de 150 repas. Mais on n'a pas, franchement, et je tiens à remercier tous les gens qui participent de manière directe et de manière indirecte par leurs dons, on n'a pas de problème d'approvisionnement. Franchement, c'est un problème de riche qu'on a, souvent.
Eh bien, merci Yazid pour vos témoignages et surtout pour permettre aux auditeurs et auditrices de découvrir un peu les associations qui œuvrent avec leurs propres moyens, c'est ce que l'on peut dire. Et l'intérêt de cette émission aussi, c'est de permettre la rencontre d'associations qui œuvrent dans le même sens, même si d'un côté, c'est du côté du centre des quartiers sud et de l'autre quartier nord. Mais nous espérons que cette passerelle, une fois établie, permettra de nouer des liens et peut-être de tisser un réseau aussi commun. Je vous propose de faire une pause musicale et nous allons écouter Daman El Arachi. Je n'ai pas...
Daman El Arachi.
Voilà, merci. Merci beaucoup pour me reprendre. J'ai essayé. Bon. Thank you.
تسافر تروح تعيا وتولي ليه شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي البلدان العامرين والبر الخالي شحال ضيعت وقت وشحال تزيد ما زال تخلي يا الغايب في بلاد الناس شحال تعيا ما تجري بيك وعد القدرة ولا الزمان وانت ما تدري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال العباد الغافلين قبلك وقبلي يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال نجمو العباد الغافلين قبلك وقبلي
وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش الداوي لابطيت اعلم وكتب لي ما يدوموا الايام ولا يدوم صغرك وصغري يا حليل ومسكين اللي خاب سعدوك زهري
يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافل يا رايح وين مسافر تروح تعيا وتولي شحال ندموا العباد الغافلين قبلك وقبلي
مسافر نعطيك وصايتي ديها عالبكري شوف ما يصلح بيك قبل ما تبيع وما تشري يا النايم جاني خبرك ما صرالك أسرالي هكذا راد وقدر في الجبين صبحان العالي
يا رايح وين مسافر تروح تعيا
Oui, toujours au sein du local du comité Maïga pour l'émission Les Échos du Grand Saint-Barthélemy. Pour mener à bien cette action de solidarité citoyenne que sont les maraudes, revenons de façon un peu plus précise sur les moyens, parce que cela nous semble être extrêmement important, même si nous avons commencé à aborder en première partie les différents moyens. La question c'est, et hors micro, tout à l'heure Cathy nous laissait entendre quelle est la différence, pas pour les opposer, mais en termes de complémentarité, les maraudes sont effectuées à partir de ces mobiles, pourrions-nous dire, pour ABCD, l'association ABCD.
Mais pour ABCD, elle se situe deux fois par semaine. Donc le jeudi et le mardi soir. Donc on commence à tourner à partir de 19h et quelques. On finit en général vers 21h30. On a quand même pas mal de monde. Hein. On a à peu près une cinquantaine donc de personnes hein, qui nous attendent. Ce sont des habitués. Hein. Ils nous connaissent. Hein. Enfin, nous, avec Marie-Lou, on est là que depuis 4-5 mois. Donc, c'est tout à fait récent. Mais on arrive à établir un dialogue hein, avec certaines de ces personnes hein, quand même. Hein. Donc là, ils commencent à nous parler, bien sûr, certains de leurs difficultés. Certains trouvent des petits travaux à faire périodiquement. On en a quand même 3 ou 4, hein, comme ça, qui arrivent à travailler pendant la foire, pendant la nuit, à être des veilleurs de nuit, etc. D'autres, alors la moyenne d'âge, c'est très très variable hein, ce qu'on a. On va dire que c'est autour de 40-45 ans. Hein. Ça va de, on va dire, de 25 oui, à 55 ans. Voilà, en gros, c'est ça.
Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ?
Non, non, non. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de femmes. Il y en a quelques-unes. Il y en a peut-être 3-4. Hein. Il y en a moins cette saison. Il y en a davantage l'été hein, quand même. Hein. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui se situent autour de la quarantaine, hein, on va dire. Alors, il y a pas tellement d'étrangers, en fait. Hein. Non, non, non. Hein. C'est peut-être pas la même misère, en effet. Hein. C'est pas le même quartier.
Ouais. Prenez le micro si vous souhaitiez intervenir hein, aussi.
Voilà, c'est différent. Alors, ils sont surtout en demande, plutôt eux, de vêtements, hein, il me semble, hein, et de produits d'hygiène qu'on distribue également. Hein. Parce que, bon, on a certains commerçants du quartier qui nous font des dons, ça c'est sûr. Hein, donc, de ce côté-là, on est quand même on est aidés. On fait des vide-greniers très régulièrement. Voilà.
Parmi les moyens.
Parmi
les voilà. D'avoir des moyens
pour
aussi.
Nous permettre d'avoir des moyens. Donc tous les un mois et demi, en gros, on fait des vide-greniers au niveau de la plage. Voilà. Là, on arrive quand même à avoir pas mal de rentrées financières, hein, quand même. Hein.
Ouais, ben, ouais. Peut-être parce que l'association BCD se fera un plaisir de vous inviter, de vous convier aussi au vide-grenier pour que vous puissiez participer aussi. Hein. Ça permettra de décentrer, ça sera un vrai plaisir.
Hein. On voit un peu de tout. Et bon, ben, je sais pas, dernièrement, enfin, la moyenne de ce qu'on peut récolter, c'est autour de 400 euros quand même. Hein. 350, 400 euros. Hein. Ce qui nous permet donc d'acheter évidemment la viande. Voilà, c'est surtout ça qu'on achète. Hein, parce que qu'on donne à la brasserie, donc qui est en face du stade, et eux, ils nous cuisinent. Donc, une fois par semaine, ils nous font la cuisine. Donc, on est bien aidés par ces gens-là. Hein, parce que notre responsable les connaît depuis des lustres, hein, depuis plus de 20 ans.
Une autre question qui me préoccupe plus exactement, c'est celle, j'entends donneur d'arrêt, j'entends vêtements et autres, mais à quel endroit vous pouvez entreposer tous ceux que vous récoltez aussi. Alors, parce que ça se pose la question peut-être pour vous aussi, mais aussi peut-être pour l'association ABCD.
Alors, c'est notre responsable qui dispose d'un garage assez grand, on va dire ça, dans lequel elle entrepose tout. Les vêtements, la nourriture, etc. Oui, donc on dispose d'un garage assez grand, en face du stade, hein, là dans le 8e, à côté de la brasserie, hein, puisqu'elle habite à côté, elle. Hein.
Yazid, désires-tu aussi intervenir pour vous parler des moyens de ce bon
oui, ben je vais voilà. Juste repréciser concernant les actions. Au départ, on a eu donné des habits, beaucoup, 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 trop même. Parce que ça demande beaucoup de travail, il faut trier les habits, parce que souvent les gens vous donnent un peu tout et n'importe quoi. Et donc ça nécessite quand même d'avoir des mains, des gens qui le font. Donc on a arrêté. Pour deux raisons, parce qu'au niveau de on n'avait pas la logistique pour. Et deuxièmement, on s'est rendu compte que les gens prenaient les habits, les jetaient, et certains les revendaient. Donc c'était un peu gênant sur la démarche, donc on s'est arrêté à donner du repas. Concernant les dons, on organise 2 à 3 fois par an un tournoi. On récolte beaucoup d'argent.
Tournoi de foot ?
Tournoi de foot, d'accord. Auquel... une 24 équipes de 10 personnes, donc aux alentours de 200-300 personnes y participent. Ça nous permet de faire connaître le projet de la mosquée, plus Plus, on en profite un peu pour garder une somme pour la maraude. Ensuite, régulièrement, on est à peu près une trentaine d'adultes. On a de l'argent. Voilà. Chacun met un peu d'argent et ça nous aide. Tout à l'heure, tu parlais de décès. C'est une cagnotte qu'on a en cas de décès. Dans l'urgence, pour éviter d'aller taper et d'aller faire en sorte d'aller taper dans les poches des uns, on a une petite cagnotte qui nous permet de pourvoir à des décès rapidement. Et si au bout de l'année, cette cagnotte n'est pas pourvue, on prend 10-15% de cette cagnotte pour pouvoir financer les maraudes. Donc il y a essentiellement les tournois de foot, il y a les denrées que nous donnent les commerçants, et je les en remercie, les dons, les denrées. Et il y a effectivement l'apport des associations comme l'Agora et Arc-en-Ciel sur la partie cuisine. Et le collectif jeune sur la partie relation. Donc effectivement, on est quand même bien équipé à ce niveau-là. Alors je ferai peut-être un appel au travers de votre radio et au travers de votre émission à des psychologues. Si effectivement certains ou certaines veulent venir nous aider, comme on dit chez nous, marhaba, vous êtes les bienvenus. Nous, on a besoin, parce qu'au travers de cette expérience, on s'est rendu compte qu'on n'était pas équipés. Alors, ne serait-ce que pour nos adhérents, parce qu'il y a une misère qui est renvoyée en face qui est terrible. Qui est terrible, terrible, terrible. Et pour protéger les gens qui participent, parce que ce sont des éponges, ce sont des jeunes qui ont envie de bien faire, et des fois qui sont totalement démunis et qui se questionnent. Donc pour éviter qu'il y ait une barrière, une sorte d'armure un peu infranchissable, j'aimerais bien qu'on puisse, alors c'est un appel que je fais, avoir des gens de bonne volonté qui ont soit des retraités, soit peu importe, des gens qui savent parler et qui connaissent un peu ce rapport-là. Vous êtes les bienvenus, donc vous avez l'association Arc-en-Ciel, je la grille un peu, ou l'Agora comme point de chute, parce que nous on n'a pas de point de chute. Vous pouvez venir voilà, et nous prêter main forte. Nous, c'est le lundi soir à la Madrague pour l'instant.
D'accord. Il y a eu un temps, pour répondre à ta question, un médecin psychiatre Girard, qui était un médecin psychiatre de rue aussi, qui faisait tout ce travail. Très bien, ouais. Je suppose qu'il a pris un poste, probablement.
À l'ARS.
Voilà, donc ce qui explique qu'il est un peu plus disponible, un peu moins disponible sur le terrain et qu'il est plus dans les bureaux aujourd'hui. Bon, mais effectivement, je pense que c'est extrêmement important parce que la dépression de ces nouveaux damnés de la Terre, elle était terrible et la détresse dans laquelle se retrouvent ces gens, je dis. Mais cependant, une autre question. Il y a, pour la légende peut-être, une galégeade, comme on dirait à Marseille, on dit que les Marseillais, quand ils tombent dans cette misère, dans ces ruptures dans leur vie, ne montrent pas leur misère, leurs difficultés. Ils vont sur l'extérieur, vont sur Paris, par exemple, pour que l'on ne puisse pas dire et faire honte à leur famille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'au cours de vos maraudes, vous rencontrez aussi des Marseillais, quelle que soit leur origine ou pas? Bon.
Non, nous, on n'a pas l'impression d'avoir beaucoup de Marseillais hein, dans nos maraudes. Hein. Non. Alors, nous, on a, on peut dire, des habitués, hein, on va dire, hein, des gens qu'on commence à connaître, hein, même si avec Marie-Lou, on n'est là que depuis 6 mois, à peu près. Non, ce sont des gens qui viennent du Nord. Hein, il y en a qui viennent du Nord. On n'a pas beaucoup de maghrébins, par exemple. Non, hein. On n'en a pas même, hein, je dirais. Hein. Non, on n'en a aucun.
On en a quelques-uns. Quelques...
Ils refusent des fois ce qu'on donne à manger. Oui, alors voilà, ils nous refusent beaucoup. Ben voilà, voilà. Ben voilà, ils ne peuvent pas tout manger. Donc, voilà. Donc, on leur donne des vêtements parce que, bon, on distribue pas mal de vêtements, en fait. Hein. Là, on a beaucoup de demandes, hein. Ben, surtout l'hiver. Donc, sinon. La population, bon, elle est assez mélangée hein, quand même. Hein. On a des gens, des gens qui viennent de l'Est. Hein. Donc, voilà. Oui.
Ils ont des parcours de vie, difficiles.
Bah, c'est des accidentés de la vie, des ruptures.
Avec la famille, avec leur épouse, avec leurs enfants.
Voilà.
C'est un peu dur. Mais ça, c'est petit à petit qu'on peut discuter avec eux. Ça ne vient pas du premier jour.
Non, ils ne nous parlent pas tout de suite. Hein.
Au fur et à
mesure des rencontres. Hein. Mais on a pas mal de Français de souche, hein, quand même. Hein. Voilà, on en a pas mal.
On a fait une fête aussi, la brasserie nous a prêté un soir, alors qu'ils sont fermés d'habitude, la brasserie. Ils nous ont prêté leur salle et on a fait une petite fête, on les a invités. Et là, on a appris à mieux les connaître, justement, ce soir-là.
Oh, et là,
parce qu'on était autour d'une table.
Ils sont plus aptes à la discussion.
Ils ne sont pas tous venus. Hein. Une quinzaine, quoi, on va dire. Mais ça a permis de mieux les connaître.
D'accord.
Et ensuite, de mieux pouvoir les appréhender lors des maraudes.
Oui. Nous, l'association Arc-en-Ciel, les mamans qui participent à la préparation des repas, justement, notre condition, pour moi aussi, hein, laquelle on pouvait participer, c'est justement ne pas avoir cette misère. C'est de préparer les repas. On savait qu'on faisait quelque chose de bien pour des personnes qui en avaient besoin. Mais moi, je sais que je ne suis pas prête à voir cette misère. Parce que c'est assez compliqué. Et me connaissant et connaissant les mamans avec lesquelles on travaille, voilà, super sensible et...
Alors nous, on n'a pas tellement de mamans, hein, par contre. Hein. On a surtout des hommes. Hein. L'immense majorité, ce sont des hommes.
Non, mais après, nous, c'est les mamans qui cuisinent.
Voilà, qui interviennent. Ce n'est pas la même.
Nous, on cuisine.
Préparer, ah oui, voilà. Vous cuisinez, d'accord.
C'est ça.
Le retour qu'on donnait aux mamans, c'est que nous, la population qui utilise les maraudes, c'est des familles, c'est des jeunes.
De voir les enfants.
C'est des jeunes filles qui ont fugué. Des jeunes hommes qui ont fugué, des parcours de vie, mais cabossés.
Me connaissant, je suis capable d'aller tous les ramasser et les ramener avec moi à la maison.
Il y avait des réfugiés syriens à l'époque qui venaient avec des enfants. Quand vous discutiez avec eux, ils étaient au top du top et puis ils se sont retrouvés du jour au lendemain, mais démunis complets, avec la perte de la moitié de leur vie, de leur famille. Donc il y a un nœud avec lequel il faut quand même dialoguer. Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident pour eux, c'est pas évident pour nous. C'est pour ça que je réitère encore une fois mon appel concernant des psys. Mmh. Alors oui, on a des gens qui sont sous l'effet de psychotropes, alcool,
d'addiction. Ben oui, bien sûr.
Où là, ça devenait un tout petit peu problématique. Mais on a la chance d'avoir aussi des gens qui ont une belle carrure, des gros bras, qui de temps en temps, quand ça chauffe un peu, peuvent recadrer un peu les choses. Je dis bien que c'est très rare, mais bon, des fois, de temps en temps, quand vous avez quelqu'un qui double pour avoir un bon repas, parce que ça arrive aussi, la misère, malheureusement, pousse à faire des choses auxquelles nous, on n'est pas confrontés, parce qu'on n'est pas dans cette misère-là. Donc, souvent, ça crée des petits moments de tension.
Pour permettre à ces nouveaux damnés de la Terre, le barrage de la langue peut-il constituer aussi un obstacle? Est-ce que vous rencontrez ces difficultés? Et par exemple, parmi les propositions que l'on pourrait faire, c'est éventuellement lorsque ABCD a besoin aussi d'avoir un interlocuteur, un traducteur pour la communauté, peut-être pourrait s'adresser à l'association Arc-en-Ciel ainsi qu'au collectif des musulmans. Un exemple parmi tant d'autres. Alors
Le barrage de la langue, c'est rare hein, quand même. Hein. C'est pas très fréquent hein, quand même. On arrive un petit peu à leur parler, à dialoguer, ça oui.
On arrive avec nos assiettes et finalement on n'a pas besoin de parler.
Et se confient-ils facilement et parler de leur vie et des accros hein, parce que de la vie qui fait que la désescalade sociale et sanitaire est très très rapide.
Pas tout de suite justement, mais au bout d'un quelques fois qu'ils nous reconnaissent. Et oui, on arrive un petit peu à parler, mais on est pris un peu, moi je trouve, par le temps. Ben oui. Parce qu'on ne peut pas y aller trop tard non plus, parce qu'après ils ont chacun leur coin. Et ils nous disent toujours vite, vite, il faut que je parte pour retrouver ma porte cochère, mon truc pour dormir. Et donc on est un peu pris par ça. On ne peut pas y aller trop tôt, parce qu'on va nous donner, donc au champ gourmand, on ne nous donne pas avant 19h, 19h15, ce qui leur reste. Donc on est un peu pris par ça, moi je trouve. Donc,
Je sais que vous touchez pas mal de gens alcoolisés.
Pardon ?
Des gens alcoolisés. Oui, au niveau de la timone, au niveau de l'hôpital. Ils sont devant l'hôpital. Ceux-là, oui.
Comment ça se passe ?
Avec eux, on a un peu plus de difficultés parce que la plupart du temps, ils ne veulent pas manger. Ils sont plutôt en demande de vêtements, de choses comme ça. Alors, des vêtements, on arrive à en récolter pas mal quand même. Une fois par mois, donc lorsqu'on fait, nos appels, nos espèces de kermesses, tout ça, donc on leur distribue. Alors là, on essaie de faire attention parce qu'il y a certains trafics,
notamment avec les Roms.
Oui.
Alors les Roms, on en a de moins en moins, parce que les Roms, on s'est rendu compte que les vêtements qu'on leur distribuait, ben, ils allaient vite les revendre. Donc on essaie quand même de limiter hein, devant les Roms, hein, franchement. Hein.
Donc évitons les stigmatisations, même si effectivement désigner une communauté.
Bon, non, voilà, non. Hein. Ce bon, qu'on peut dire sur
si
les Roms,
partie du reflet...
c'est qu'en fait ils ne venaient pas pour manger, ils viennent
non,
pas pour manger.
Ils veulent pas
ils nous
manger,
demandent
eux.
Que du vêtement. Et nous, bon, notre donc, but, voilà. c'est de distribuer des Roms.
Donc une question aussi avant une autre pause musicale. Sauf si tu voulais intervenir, cela concerne un peu le coronavirus. Alors, c'est surtout en prévention, même si avant cette problématique, c'est hein, bon. Je suppose que tant les bénévoles d'ABCD ainsi que vous autres, vous prenez aussi certaines mesures aussi pour vous protéger, protéger aussi les personnes auxquelles vous apportiez votre concours et votre soutien.
Alors, un petit élément que je précise, les masques sont en rupture de stock.
Oui, oui, oui nous savons. Nous savons.
L'État a débloqué 1 million de masques aujourd'hui.
Ah, bon, alléluia. Voilà. Donc, ils étaient en rupture de stock, principalement privilégiés bah, vous... pour l'armée.
Ouais.
Et concernant le coronavirus, en fait, tout à l'heure, tu parlais de la barrière de la langue. Sur les populations qu'on a, essentiellement, bon, il y a un flux migratoire syrien, maghrébin. On a des Nigériens qui parlent anglais et des Afghans. Alors le problème se pose avec les Afghans parce qu'on a personne qui est en capacité de traduire le perse ou l'afghan. Et là, on a un petit souci avec eux de communication. Mais honnêtement, sorti de là, on arrive quand même à parler,
et
à baragouiner d'accord. un peu avec les mains. Après, d'accord. concernant les précautions, j'allais vous dire, nul ne peut se prémunir. Vous êtes dans un bus... Quelqu'un éternue devant vous. Voilà,
c'est, d'accord. C'est... Mais vous avez des gants des...
Alors, on a des gants, voilà, on a des gants hein pour l'hygiène.
D'accord.
Le minimum. Donc, voilà. On a les gants. On essaye quand même d'être... Mais non, sinon, franchement...
D'accord.
Ah non, nous, on n'a pas de gants, par contre. Hein. Nous, on se désinfecte les mains, simplement. Mais on n'a pas de masque, on n'a pas de gants.
Non,
hein.
On n'a pas de masque.
Mais après, nous, nos repas à nous, c'est des... Quand vous dites grosses cocottes... Nous, c'est des marmites qui font peut-être 150 litres. Hein.
C'est des marmites de druides.
Voilà.
Ah oui, d'accord.
Voilà, on parle pas du tout des mêmes quantités.
Non, non, non.
Je veux dire, voilà, nous, si on n'a pas les gants et la grosse louche, c'est pas possible.
Ah oui, d'accord, je comprends.
Donc voilà.
Oui, oui, non, on n'a pas bien, les mêmes quantités. Ça,
c'est ça.
Merci, nous allons faire une pause musicale. Et aller à la rencontre de Claudio Capeo, un homme debout, parce que toutes ces personnes-là étaient en difficulté, mais malgré tout, toujours à la recherche d'une dignité, d'une forme de dignité. Galère, c'est à 88.4, les échos du Grand Saint-Barthélemy.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le restantez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous, malgré toutes mes galères, je reste un homme.
Merci bien pour la pièce, en ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Si de toi à moi c'est dur, je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon, comment faire? À part l'ivresse comme futur, que tes promesses en veux-tu? Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre, tout le monde passe, mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement, tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie à vendre. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous?
je m'en sorte. Prie pour que mieux je me porte. Ne me jette pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endorme, réveillez-vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous. Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Nous allons poursuivre, hein, parce que c'est quasiment la dernière partie de l'émission. Alors, c'est Farid, hein, je te laisse.
Merci toujours, voilà, vous êtes toujours à l'écoute, hein, du Grand Saint-Barthélemy, avec nos invités, l'association ABCD, Arc-en-Ciel, le collectif des musulmans, et les membres du conseil d'administration, et Karima Berich, sociologue. En tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation. Par rapport à ça... Pensez-vous qu'à l'instar des associations telles que le Secours catholique, le Secours populaire, la Croix-Rouge, etc., que vous vous substituez en quelque sorte aux missions de populaire de la Croix-Rouge, etc., aux missions de l'État, à savoir notamment celle de la solidarité, surtout lorsque l'on sait l'impaisable que Marseille... seconde ville de France, ne dispose que 60 points d'eau et 8 toilettes, et 8 toilettes publiques payantes, alors qu'à Paris, certes, la capitale propose 800 points d'eau et 500 WC publics gratuits. Est-ce que quelqu'un peut me répondre ?
Alors, juste une petite précision, tu parles de Marseille et tu fais effectivement... malheureusement, la triste réalité qu'est Marseille, une ville où malheureusement il ne fait pas bon être pauvre. Heureusement qu'il y a une chaîne de solidarité, qu'il soit dans le nord ou dans le sud de la ville, qui se met en place. J'aimerais juste rappeler deux, trois petits éléments très rapides à ce que tu viens de citer. Nous sommes la ville qui compte le plus de pauvreté en France, okay, avec deux poches de pauvreté extrêmes, que sont le 3e arrondissement, qui, selon certaines statistiques, est l'arrondissement le plus pauvre d'Europe, avec des quartiers les plus pauvres d'Europe, non référencés, le parc Alisté, Corot, ou d'autres secteurs qui, malheureusement, là, ne sont pas dans l'incapacité de référencer ces gens-là. Malheureusement, je ne veux pas faire de politique, mais c'est la gestion de la ville qui a été totalement inégalitaire, qui a fait que, malheureusement, on a une ville où deux populations se regardent bizarrement, ne communiquent pas. Et moi, je suis content d'avoir l'association ABCD. On était en off en train de discuter sur la possibilité de mutualiser des produits bio pour les adhérents, pour les associations. Donc, effectivement, tu parlais tout à l'heure, Jean-Pierre, de
Jean-Marc.
Pardon.
Oui, mais bon...
parce que j'ai grandi avec Jean-Pierre.
Jean, voilà, oui.
Tu parlais, Jean-Marc, tout à l'heure, de passerelles qui devraient se créer. Il y a une passerelle qui a été créée entre les quartiers nord et le centre-ville. Malheureusement, à la suite des drames de la rue d'Aubagne.
Oui.
Et là, effectivement, s'il y a une passerelle qui se crée entre les Marseillais et les Marseillaises, c'est que profitable, parce qu'effectivement, les politiques, sans faire de politique et de démagogie, ont stigmatisé une partie de la population. Quand vous regardez les offices de tourisme, vous n'avez pas les quartiers nord, à croire que les quartiers nord ne font pas partie de Marseille. Et quand les gens vont dans les quartiers sud, pour eux, c'est un problème aussi, parce qu'il y a une barrière qui est invisible, mais qui est une fracture qui a été béante. Mmh. Oui, 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 et oui, sur ce que tu disais, il faut qu'il y ait un peu plus de services pour les plus précaires, pour les plus pauvres, au-delà de ce qu'on fait nous, parce qu'on est malheureusement sans moyens. Il n'y a que la volonté, et il suffit qu'il y ait une petite faiblesse, une maladie, un enfant qui soit malade, pour qu'on puisse malheureusement ne pas répondre. Et ça, ça nous a été souvent le... De temps en temps, lorsqu'on l'a fait, on a été limité à cela. C'est-à-dire, il suffit que vous créez un besoin, une attente pour que les gens viennent. Et puis, faute de moyens, faute d'argent, faute de structuration officielle, on se retrouve un tout petit peu à ne pas répondre à leurs attentes. Maintenant, on n'a pas la prétention d'être le Secours catholique. Qui... Voilà, on reste quand même à notre échelle. Toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Mais malheureusement, la ville... Et loin, 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 loin derrière certaines petites villes qui ont mis en place. Moi, j'étais dans les Hautes-Alpes il n'y a pas si longtemps que ça. Vous avez à Gap des structures qui accueillent les migrants, qui fuient l'Italie en passant par la montagne, pour vous dire. Hein, des paysans qui vont chercher ces migrants et qui se battent, pour ne pas citer la Confédération paysanne, contre des petits nazillons qui viennent les dénoncer. La solidarité, elle est protéiforme, elle est de partout, elle n'est pas que dans les quartiers nord, elle est de partout. Il y a de la bonne volonté, et heureusement, parce que sinon on crèverait de ce manque de solidarité. Mais j'espère, et j'ose espérer que, mais bon, les politiques malheureusement actuelles ne prennent pas le pas, que certaines politiciens ou politiciennes qui sont dans la démagogie, dans la stigmatisation de population, puissent à un moment donné se rendre compte et faire le bilan de leur propre action. Tout à l'heure, on parlait en off des musulmans, tu nous disais, alors je fais une petite aparté, très rapide, et je ferme aussitôt la parenthèse. Lorsqu'on ne s'exprime pas, on dit que les musulmans ne parlent pas, et il faudrait que vous puissiez parler et agir sur le champ associatif. Et lorsqu'on agit sur le champ associatif, on nous dit, vous êtes communautaire, vous êtes issu d'un islam politique. Alors je rassure les auditeurs et les auditrices, nous sommes des citoyens et des citoyennes à part entière, des Marseillais et des Parentiaises à part entière. Nous avons une conviction religieuse que nous le gardons dans notre intime. Et à partir de là, nous avons envie, au même titre que toutes les associations cultuelles et culturelles, de participer. Ça s'appelle la citoyenneté, tout simplement.
Oui, et vous souteniez l'Olympique de Marseille.
Alléluia. Aujourd'hui plus qu'hier.
Voilà, c'était juste pour détendre un peu l'atmosphère.
Il y a aussi une question que je voulais vous poser dans le cadre de ce dôme. Que pensez-vous des moyens complémentaires qui sont mis à la disposition des hommes et des femmes sans domicile par les compagnons d'Emmaüs à la Pointe Rouge, un laveau mobile qui est retrouvé une fois par semaine à la place Stanigan?
Oui, enfin, on sait qu'il s'agit d'une action récente, donc évidemment on y est favorable parce qu'on s'est rendu compte, on distribue des vêtements hein, en dehors de l'alimentation. Ben, les vêtements, à un moment donné, ils les jettent. Et donc, nous, on les redistribue. Mais le fait que cela existe, ben, c'est une bonne chose, hein, de toute façon, hein, puisqu'ils ont la structure sur place. Et ils peuvent reprendre leurs propres vêtements. Mais c'est tout à fait récent. Oui, mais ça ne circule pas dans tous les quartiers, hein, malheureusement. Hein.
Donc, une fois par semaine.
Voilà. Mais je pense que ceux qui résident du côté de nos quartiers vont rarement à la place Stalingrad, hein, il me semble. Hein.
Cela veut dire, en corollaire, êtes-vous en lien avec d'autres partenaires contre la fondation L'Abbé Pierre comme la fondation L'Abbé Pierre, je veux dire.
Non.
Oui, mais ce sont les compagnons d'Emmaüs Pointe Rouge, surtout voilà, avec lesquels vous êtes.
Voilà, surtout voilà. Avec ceux-là, les compagnons d'Emmaüs.
Juste rapidement, Yazid, compte tenu de l'heure qui nous est impartie, est-ce que tu voulais intervenir aussi? Excuse-moi, Cathy.
Pour répondre à la question de Farid, il y a eu très rapidement, il y a eu les états généraux de Marseille qui ont été faits en juin, et avec il y avait notamment Emmaüs Emmaüs de Pointe-Rouge qui ont participé aux états généraux. Il y avait Médecins du Monde. Il y avait pas mal d'associations qui ont quand même l'habitude de travailler avec ces publics-là. Donc on a créé un comité, un groupe de veille sanitaire à l'échelle de la ville. Et ce groupe de veille sanitaire a eu sa première action lors du drame qu'il y a eu à la Maison-Blanche, où il y a eu effectivement toute une partie des habitants qui se sont retrouvés délogés à cause du feu. Il y a eu une chaîne de solidarité qui a été mise en place avec des habits, avec des repas et avec... pas mal d'associations qui travaillent. Alors oui, en ce qui nous concerne, en tant que collectif musulman, nous ne travaillons pas avec ces associations parce que certaines ont peur de s'afficher aussi avec nous, malheureusement. Alors je ne le dénonce pas, mais je peux le comprendre. Mais effectivement, que ce soit l'Agora ou que ce soit Artentiel ou d'autres associations, ils peuvent facilement travailler avec ce genre d'association. Mais dans le cadre de l'action des maraudes, honnêtement, on n'a pas, on les oriente, on fait de l'orientation, mais on n'a pas ce genre d'action à proprement dit.
Donc, avant votre conclusion, vos conclusions, hein, puisque nous arrivons compte tenu de l'heure, donc nous attendons vos conclusions avec une idée qui est extrêmement importante, me semble-t-il, c'est de dire et de répéter que c'est surtout l'indifférence qui tue, que l'autre qui est en face de nous, ce sont des êtres humains qui ont une vie, qui ont eu un passé, et que tant d'autres, il suffit d'un petit accro, un divorce, une absence de logement, surtout lorsqu'on voit le drame de la rue d'Aubagne, cela peut arriver que l'on se retrouve faisant partie de cette population d'exclus. Donc, l'indifférence tue et qu'il faut que nous soyons sensibles. Juste une petite anecdote aussi qui est un peu personnelle. François Zéga, qui est à l'origine de la création du comité Maméga, qui nous a inspiré, cette dernière, lorsque nous étions enfants, nous l'accompagnions sur le centre-ville, que faisait-elle lorsqu'elle voyait quelqu'un qui demandait, qui sollicitait, avec le peu de moyens, parce que faisant partie des classes populaires, ouvrières, tant d'autres, c'était difficile de finir les fins de mois. Donc, au-delà du fait d'avoir un mari facteur non titulaire, avec il fallait faire bouillir la marmite comme pour beaucoup de familles nombreuses. Donc, elle était femme de ménage et que lorsqu'elle était sur la canebière, qu'il y avait quelqu'un qui demandait des sous, ce qu'elle refusait, c'était de pouvoir donner de l'argent. Par contre, s'il y avait une boulangerie et qu'elle avait un peu d'argent, elle achetait un sandwich et qu'elle donnait à cette personne qui était nécessiteuse. Donc je pense que si chaque citoyen aussi pouvait regarder l'autre en tant qu'être humain et non pas en tant que déchet de l'humanité, que peut-être cela serait complémentaire aux actions collectives qui sont menées par des associations telles que l'association ABCD ainsi que le collectif et l'association Arc-en-Ciel. Alors, vos conclusions, s'il vous plaît. Alors, avez-vous autre chose à ajouter? Moi, ce qui me semble important, c'est que vous vous soyez rencontrés et que vous pourriez tisser des liens aussi ultérieurement.
Oui, je pense que ce serait possible de tisser des liens. Hein. Enfin, nous, on est absolument ouverts à toute autre initiative. Hein. Alors, on essaie de faire autre chose que de pourvoir aux besoins alimentaires hein, aussi. Certains... ne sont pas alcoolisés, on va dire, hein, parmi la population qu'on voit. On essaie de leur trouver des petits boulots. Et notre responsable, notamment, s'occupe de cela. Donc, des petits boulots, par exemple, pendant la foire, etc. Et on y arrive, hein. On y arrive. Et là, c'est vrai que bon, on est, il y en a 34 hein, qu'on a réussi, à réadapter un petit peu au niveau de l'emploi. Parce que bon, certains font la demande, mais étant donné que malheureusement, il y a le problème de l'alcool, hein, et ça joue énormément sur leur comportement. Donc, on essaie d'en réadapter quelques-uns, donc à obtenir des rendez-vous avec des éducateurs, etc., et à les réinsérer. C'est arrivé pour deux ou trois déjà, hein. Donc ça peut fonctionner. Voilà, on répond aussi à cette attente-là.
Merci pour votre venue sur nos quartiers. Alors, Arc-en-Ciel. Bon. Donc, vous estimez que vous avez tout dit, hein, bon.
Oui,
donc, est-ce que vous pouvez faire un appel aussi, comme a fait Yazid, à non seulement d'autres bénévoles pour pouvoir soulager ceux qui sont...
Bon. Non. Toutes les bonnes personnes sont les bienvenues, bien sûr. On est toujours ouverts et on le sera toujours. Moi, je voulais juste remercier les mamans qui sont présentes tous les lundis, qui font ça sur leur temps personnel. Avec les enfants qui sont à côté. Merci au collectif des musulmans qui tournent aussi, qui sont là tous les lundis parce que nous on cuisine, mais à côté c'est eux qui s'occupent de la distribution et de ramener les denrées. C'est-à-dire de faire la tournée, d'accord, de commander, de récolter les dons, les denrées. Voilà, oui. Tout ça, ça prend du temps. Ouais,
Moi, je voulais préciser qu'on tourne deux fois par semaine.
Oui.
On tourne le mardi soir à partir de 19h jusqu'à 21h30, hein, on va dire. On a 7 ou 8 points de rencontre. Hein. Donc, ça se situe... on part de chez nous, donc face au stade, donc du 8e. On va jusqu'à la plage, jusqu'au casino, devant le casino. On finit par la Timone et on s'arrête en 7 à 8 points différents. Donc, voilà, on a une page Facebook, donc je vais me permettre de la donner.
Ah ben oui,
donc, page Facebook, tiret, @ ABCD, en majuscule toujours, ASOC. Voilà, et le numéro de téléphone, donc je peux le donner, de notre responsable, c'est le 06 98 81 71 99. Voilà.
Donc, si vous aussi, vous avez aussi des numéros de téléphone à communiquer, le collectif ainsi que Arc-en-Ciel.
Au moins, je vais juste donner le Facebook.
Au Facebook, allons-y. Ouais. Oui.
Alors, Facebook, c'est Arc-en-Ciel, A-R-T, Arc-en-Ciel. Voilà. Alors, sur Facebook, vous avez toutes les actions que nous menons toute l'année. Oui, les photos des actions, les maraudes. On a amené des mamans sur une scène de théâtre. Elles ont fait du théâtre. Ouais. On a réussi à les amener en voyage à très bon prix. On les a amenés en Italie aussi. Bon, on essaie de...
Ah oui, il y a toute
l'action
sociale.
C'est ça. Ouais. C'est ça. On essaie de faire pas mal de choses, y compris de financer des projets d'école.
D'accord.
Voilà, c'est notre but premier, voilà.
Oui, ça c'est tout à fait différent chez nous.
Oui.
Le collectif, alors, un numéro de téléphone, un contact, une page Facebook.
Alors, une page Facebook, oui, c'est Collectif des musulmans de la Busserine, donc il y a la page Facebook. Un contact, non, parce qu'on est, on est plusieurs. Pour clôturer un peu cette émission, je tenais à remercier quand même Maméga pour votre invitation et pour le travail que vous faites sur le quartier. Je remercie Radio Galère pour ce que vous faites, parce qu'on a besoin quand même d'avoir des radios militantes et qui puissent être ouvertes sur les bonnes initiatives qui se font dans les quartiers. Et heureusement que des associations comme... c'est une association en plus, que des radios comme la vôtre existent. Je remercie l'Agora, je remercie les mamans d'Arc-en-Ciel et tous les gens de bonne volonté qui ont participé. Et effectivement, on a quand même besoin de s'ouvrir vers les gens et de tendre la main vers les plus nécessiteux. Sinon, on crèverait tous. Je vous assure, on ne peut pas se permettre de faire comme elle a fait une période la ville de Marseille, c'est-à-dire retourner les canons contre ceux qui avaient la peste à l'époque. Donc,
Au nom du comité Maméga, je tiens à vous remercier aussi en tant que partenaire aussi privilégié. Je trouve que c'est vachement important de soulever.
Et merci beaucoup à Karima Berich pour sa disponibilité et surtout d'être toujours omniprésente lorsqu'il y a des combats à mener sur le terrain, quels que soient les terrains, parce que nous voyons Karima, y compris Herbel, quels que soient les lieux, et qui est sur Marseille où il y a des combats à mener. Merci beaucoup Karima. Alors juste avant de terminer rapidement, oui.
Permettez, donc je reprends la phrase que tu as citée et qui est fort juste, c'est l'indifférence qui tue. Et nous menons aujourd'hui un combat, c'est un combat contre la pauvreté, c'est un véritable combat. Alors on peut la porter à double titre, me semble-t-il, à titre d'individu, avec ce que vous faites dans le cadre de vos maraudes, mais je pense aussi à titre de citoyen et citoyenne, et de rappeler aux politiques qu'ils ont un rôle à jouer, aussi important si ce n'est plus, pour combattre la pauvreté, en mettant en place des lois qui effectivement diminuent la pauvreté que nous observons aujourd'hui, voire à l'éradiquer totalement. Voilà. Je pense que c'est un double combat individuel et citoyen.
Dernière partie, très rapidement, ce sont des communiqués concernant la vie du quartier du Grand Saint-Barthélemy. L'association Sheba propose des cours d'alphabétisation, d'initiation et de perfectionnement à l'informatique, de la médiation numérique, de la médiation juridique, des actions de lutte contre l'isolement en direction des seniors et des moments de convivialité, projection de films, ateliers, arts plastiques, etc. De même, toujours cette même association organise aussi des repas conviviaux, comme vous-même, comme l'association Arc-en-Ciel, et de partage dans leurs locaux. Il y a un repas qui est organisé le 3 mars, qui est ouvert à tous, bien sûr, à condition d'avoir réservé au 04 91 67 53 69. Le 30 mai, c'est le collectif Jeunes, où nous en parlerons aussi, mais le mois prochain. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Sheba organise le 10 mars une journée au cours de laquelle sera projeté le film « Les suffragettes » suivi d'un repas et d'une après-midi festive. Pour toute information, vous composez les 04 91 02 46 96 et pour toute info et résultat surtout, vous composez aussi le même numéro. Excusez-moi, c'était répété. Pour les activités culturelles, familiales, soutien scolaire, emploi, insertion, formation, accueil de loisirs et accueil jeunes ainsi que des permanences d'institutions, vous pouvez vous adresser aux différents équipements sociaux du quartier, le centre social Agora, le centre social Flamand Iris, MFA et bien sûr les différentes associations. Et j'espère que vous nous communiquerez pour le mois prochain aussi les différentes informations vous concernant. Nous vous informons aussi qu'il y a la 15e édition du tremplin vers l'emploi. C'est le forum emploi de proximité qui se déroulera le jeudi 26 mars 2020 de 9h à 13h au centre social de Flamand Iris. Programmation du théâtre du Merlan, scène nationale, qui se situe au 14 avenue Rému dans le 14e à Marseille. Le mercredi 11 mars à 20h30, concert de Brigitte Fontaine que nous ne présentons pas parce que nous, qu'est-ce que vous voulez, nous appartenons à une génération que ceux des moins de 20 ans n'ont pas connu. Voilà. Le mardi 17 mars à 20h30, c'est du théâtre. Ces filles-là, d'Anne Corel. Le mercredi 25 mars à 20h30, du théâtre, Radio Live, une nouvelle génération au micro, d'Aurélie Charron, Caroline Gillet et Amélie Bonnet. Le mardi 31 mars à 19h30, toujours du théâtre, La mécanique du hasard d'Olivier Letellier. Concernant le comité Maméga, pour le comité Maméga, l'année 2020 est l'année du centenaire de Françoise Héga, 1920-2020, que le comité célébrera à travers diverses initiatives, dont celle d'un projet inscrit dans la continuité d'ouvrages relatifs à M. Maboubitir. Être de Marseille, c'est être d'ailleurs, sur les traces d'une famille martiniquaise au sein du Grand Saint-Barthélemy, n'est-ce pas Karima ? Avant de retirer notre révérence, un hommage au jeune Ibrahim Ali, assassiné il y a 25 ans par les couleurs d'affiches du Front National, espérant que vous retrouverez, nous espérons par ailleurs, vous retrouver le jeudi 26 mars pour une nouvelle émission des Échos du Grand Saint-Barthélemy. Donc nous remercions tous nos invités, nous remercions Radio Galère, les stagiaires de Radio Galère qui accompagnent Sidi, nos auditeurs et auditrices, ainsi que les financeurs qui soutiennent, qui soutiennent pour le moment nos actions, dont la politique de la ville, État, métropole et département. Il se pourrait que ça puisse cesser, mais je sais que nous pourrons toujours compter sur Radio Galère pour venir sur nos quartiers et pour que l'on puisse en parler aussi. Oui.
Juste rajouter que le Centre social Agora organise un repas du 5 mars.
D'accord.
Voilà.
Voilà. OK.
Tu n'avais pas l'info, voilà.
Non, je n'ai pas l'info. Voilà. Et pourtant, ce n'est pas faute la farine de ne pas se rendre sur place. Bon, bref, c'est la cuisine interne. Merci beaucoup. Merci, Sidi. Et à très bientôt. Allez, bye bye. Au revoir.